Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Pour cette édition de Logosphère, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Amalvi. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Amalvi, vous êtes écrivain, critique de danse et créateur sonore, de manière très résumée. Vous avez publié Une fable humaine aux éditions Le Quartanier ainsi que High Boom dans cette même maison d'édition. Et vous venez nous présenter le livre Bruit Gris qui est sorti en décembre 2025 aux éditions du Bunker.
Tout à fait.
Vous allez justement nous parler de la maison d'édition durant cet entretien, et bien sûr de ce livre, Bruit Gris, un titre étonnant, tout simplement Bruit Gris. Pourquoi ce motif qui donne le titre à cet ouvrage de poésie?
Alors, effectivement, dans le livre, à un moment, on a ce passage qui s'appelle « Tentative d'explication ». Où il y a à la fois la définition, qui est d'ailleurs tirée, je crois, de Wikipédia, tout simplement, de la définition de ce son, le bruit gris, puisqu'on peut qualifier le bruit en fonction de différentes couleurs, bruit blanc, qui est le plus connu, le bruit gris, il y a aussi le bruit rose. Et ensuite, après cette définition, en quelque sorte, neutre, suis-moi la définition que j'en donne. Bruit gris n'est pas une chanson douce, un nouveau genre musical, une pièce de musique spectrale avec micro-intervalle intense. Bruit gris n'est pas un fait divers, un bruit qui court, pas un récit de science-fiction post-apocalyptique. C'est un texte, une aubade, une rumeur d'intensité constante. Et en fait, il faut savoir que ça peut paraître être un détail, mais en fait, c'est assez important, ne serait-ce que pour lire le livre lui-même. C'est un texte que moi j'ai écrit déjà il y a assez longtemps, puisque je l'ai achevé, je crois, en 2013. C'est un repère assez fiable pour moi, puisque je me souviens l'avoir quasiment terminé au moment de la naissance de ma deuxième fille. Donc ça me fait un repère comme ça, chronologique. Et donc 2013, ça fait déjà plus de 10 ans, et en fait l'époque a aussi beaucoup changé. Et Bruit Gris, c'était pas son titre original, puisqu'en fait, en termes de contexte, puisque l'écriture c'est toujours comment est-ce qu'un texte émerge. Il émerge souvent de plein de choses qui entrent en friction les unes avec les autres, et dans le souvenir que j'en ai, puisque j'ai un souvenir assez flou de cette période d'écriture, j'essayais d'écrire une sorte de roman de science-fiction post-apocalyptique, justement, que j'ai complètement échoué à achever. J'en ai d'ailleurs quasiment retrouvé aucune trace. Les quelques traces que j'en ai retrouvées étaient affreusement mauvaises, donc je comprends pourquoi je l'ai abandonné. Et Bruit Gris, c'est en quelque sorte le reste, comme si j'avais cassé cette machine qui fonctionnait très mal en petits morceaux, et que de ces petits morceaux, j'avais essayé de recomposer quelque chose qui arrive à saisir le cœur de l'idée qui devait être celui du roman, mais qui, dans le cadre d'un roman, devenait lourdement explicatif, mal foutu narrativement, enfin bref. Pour moi, la poésie est souvent une manière de tirer une question et d'arriver à la concentrer à un degré d'une force de poussée, un élan que je n'arrive pas à obtenir lorsque j'essaye péniblement d'écrire du récit. Bruit gris, c'est donc un bruit qui contient toutes les fréquences à intensité égale. Donc, les aigus, les graves et les médiums sont tous présents dans le bruit gris, ce qui fait qu'on entend en gros juste une sorte de rumeur, en quelque sorte. Mon idée, c'est que ce bruit gris, qu'on pourrait aussi appeler bruit de fond, c'est le bruit de fond de l'époque qui fait qu'on ne peut rien discerner à l'intérieur. Et l'opération, en quelque sorte, de bruit gris, c'est comment transpercer ce bruit de fond dans lequel on n'entend rien, en augmentant le volume. Alors peut-être en augmentant le volume général, mais aussi en augmentant des volumes à l'intérieur, en n'augmentant que les aigus, en n'augmentant que les basses. Y a des moments où j'augmente vraiment les basses et où on a presque l'impression qu'il y a une sorte de martèlement et un beat qui surgit. Et l'idée, c'est justement comment est-ce qu'on arrive dans cette espèce de bruit de fond aliénant qui laisse rien transparaître, Quelle stratégie de résistance à ce, à cette espèce de bruit de fond oppressant, ben, sachant qu'on a, toute l'opération, c'est comment le détruire, mais en fait, il est impossible de le détruire, donc il faut trouver d'autres façons de faire, et cette autre façon de faire, c'est de faire du bruit. Mmh. C'est de faire du bruit le plus fort possible, et de faire entendre, parce qu'en fait, le principe même du bruit de fond, c'est qu'on ne l'entend pas. Mmh. Et donc, Bruegri, en quelque sorte, c'est une tentative de faire entendre le bruit de fond de l'époque, en augmentant le volume.
Alors, dans cet ouvrage dont vous parliez, qui partait d'une recherche fictionnelle, eh bien, c'est un texte hybride, fait de nombreuses formes, dont vous allez nous parler, mais on y rencontre aussi des références au sein de ce texte. Voilà, ça fait référence au dérèglement climatique, à la dette grecque, aux crises des subprimes, des algorithmes à haute fréquence, l'émergence... des GAFA, des réseaux sociaux et des, voilà, des grandes entreprises du numérique.
C'est aussi pour ça que je mentionnais que c'est un texte qui a été déjà écrit il y a plus de 10 ans. Et j'ai l'impression, en le relisant, qu'il y a aussi quelque chose qui est... Il y a une autrice que j'aime beaucoup, Nathalie Quintan, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les années 10 », où elle essaye d'analyser... C'est quoi justement le bruit de fond des années 10, donc les années 2010. C'est une première forme de périodisation de l'après, parce qu'on parle beaucoup des années 60, les années 70. En fait, on a beaucoup périodisé le 20e siècle, mais le 21e siècle, qui est quand même déjà bien entamé, est en cours de périodisation. Et dans les années 10, ce texte est très années 10 pour moi, dans le sens où la crise des subprimes, tous les événements ou les rumeurs d'événements que vous mentionnez étaient encore là sous forme d'indices, en quelque sorte. Et ils faisaient sens les uns avec les autres, mais de manière extrêmement fragmentaire. La dette grecque, par exemple, 2008, ça a été un événement politique au niveau européen très important. C'est aussi la période en France où il y a ce qu'on appelle l'affaire de Tarnac, par exemple. Enfin, et en quelque sorte, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2026, dans l'état du monde tel qu'il est, il y a un certain nombre de ces indices qui sont aujourd'hui criants, qui font complètement sens dans cette espèce de courant d'extrême droitisation du discours, de super pouvoir des GAFA, qui ont aujourd'hui la puissance d'État véritablement. Mais en 2010, au moment où j'ai commencé à écrire ce texte, c'était encore des sortes de fréquences dont il fallait régler pour entendre comment est-ce qu'ils communiquaient. Et donc je pense que le texte, toujours dans cette démarche de prendre des fréquences et d'essayer d'en augmenter certaines intensités, essayait de décrypter quelque chose comme une sorte de rumeur qui faisait sens. Et j'utilise pour ça... presque de manière fictionnelle pour le coup, le médium de ce collectif informel qui traverse tout le texte et qui est formalisé par un « on » pour mettre en lumière des formes de lutte contre cette gigantesque globalité informe et irreprésentable, en quelque sorte.
L'attention, justement, de ce texte, qui traverse ce texte, vous en parlez, de ce « on » en quatrième de couverture de ce livre, rien n'aura eu lieu que le non-lieu, excepté peut-être une déflagration. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette tension-là qui traverse vraiment les trois parties de ce texte ?
Avant de parler de cette tension, juste sur la quatrième de couverture, qui est un objet à part entière de ce qu'est un livre, cet objet éditorial, il faut savoir qu'il y a eu, exactement d'ailleurs comme pour l'autre aspect qui saute aux yeux du lecteur lorsqu'il se saisit du livre, c'est la couleur de ce livre. Donc il y a eu un travail assez passionnant qui a été mené avec l'éditrice des éditions du Bunker, à la fois sur l'édition du texte, évidemment, sur le choix de la quatrième de couverture. On a beaucoup hésité, parce qu'il y avait plein d'extraits qu'on aurait aimé mettre en quatrième de couverture. On pourrait faire presque les, ce qui est le cas d'ailleurs dans le livre lui-même, en quelque sorte les quatrièmes de couverture auxquels vous avez échappé, parce qu'il y a un passage dans le texte avec les titres alternatifs. On a fini par choisir ce passage en accord avec l'éditrice des éditions du Bunker, Hélène Lecco, qui est une sorte de détournement d'une citation de Mallarmé, issue de Un coup de déjamais n'abolira le hasard. La citation de Mallarmé, c'est « Rien n'aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être une constellation, que je transforme en « Rien n'aura eu lieu que le non-lieu, excepté peut-être une déflagration », ou qui porte effectivement cette idée d'explosion. Et en quelque sorte, cette déflagration, dans le poème de Mallarmé, la constellation, en fait, ce n'est pas un événement qui advient, c'est le résultat du texte. Et en quelque sorte, la déflagration, elle est à la fois présente partout et nulle part dans le texte. C'est quelque chose qu'on ne cesse d'attendre, le moment où un événement va avoir lieu, où l'explosion va avoir lieu, où la révolution va avoir lieu, et cet événement est sans cesse différé. Il est différé parce que il y a la, donc juste le texte est construit en trois parties, même s'il est effectivement, peut-être on reviendra là-dessus, composé de formes extrêmement variées. Mais il a malgré tout trois grandes parties.
Limite centrale, scénario général et mélancolie secondaire.
Voilà. Et limite centrale est en quelque sorte le goulot d'étranglement, comme une sorte d'entonnoir par lequel passe ce collectif, ce « on », comme s'il y avait le résidu d'un sujet, d'une subjectivité, où tous les souvenirs, tout ce qui constitue un individu était en quelque sorte éclaté en une sorte de kaléidoscope de sensations à la manière, littéralement, puisque c'est l'image que j'emploie, celle des 24 images par seconde, qui est la vitesse de défilement des images dans le cinéma. Et c'est comme si on avait comme ça plein de pellicules, de cinéma, hein, pas des pellicules de cheveux, qui faisaient apercevoir une sorte de myriade de fragments d'individus. Et ce goulot d'étranglement, en quelque sorte, son résultat, c'est la troisième partie, qui est l'espèce de mélancolie, alors qu'on peut souvent appeler impuissance, devant laquelle on se retrouve parfois, justement, devant cette époque qui paraît sans issue. Et en même temps, j'ai le sentiment, en tout cas j'espère, que le texte ne se résout pas du côté de l'impuissance, mais que là, justement, comme la constellation est le résultat du texte, la déflagration est le résultat du texte. C'est-à-dire que l'ensemble des tentatives de stratégie mises en place dans le livre constituent, en quelque sorte, la solution. Enfin, pas la solution au sens d'y arriver, mais de trouver des outils. C'est presque du coup une sorte de mode d'emploi aussi, ce texte, sur comment, je crois que c'est Henri Michaud qui disait, assaisonner ses pertes.
Alors justement, ce texte est fait, comme on le disait, de formes très diverses, très hétéroclites. Alors on est bien loin des formes de poésie que l'on peut trouver par ailleurs, ce qui donne justement aussi une sorte d'entrain à découvrir quelle va être la prochaine forme dans ce livre, le prochain poème. Voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'emprunt de... Voilà, ça peut être du poème, ça peut être des séquences, des incises. Il y a vraiment une grande diversité.
En fait, il y a une sorte de fil, ou ce que moi je nomme le corps du texte, qui commence... non pas au début du livre, puisque le début est une sorte de début différé, mais qui commence avec un en avant la musique, et où apparaît pour la première fois ce on. On repousse les tables, on repousse les tables, les écrans, les barrières. Il est 23h10. Et pour moi, ce fil-là, il court tout le long du texte. Et lui, il a été écrit, je dirais pas d'un jet, mais il a été écrit notamment beaucoup, ça c'est un détail que j'aime bien citer, dans un contexte qui n'est pas celui du bureau de l'écrivain du tout, mais au contraire branché sur le bruit en quelque sorte, puisque j'en ai écrit la grande majorité dans des cafés, dans des bars underground, où j'allais écouter des concerts de musique expérimentale. Mmh. À Rennes, c'est le Terminus, d'ailleurs cité dans le texte. Mmh. La Bascule, enfin, il y a plusieurs cafés comme ça où j'allais écouter de la musique expérimentale. Et l'énergie, littéralement l'électricité, au sens de se brancher sur un ampli, de ces groupes de musique expérimentale se communiquaient directement à l'écriture. Mmh. Et du coup, il y a beaucoup de cette trame générale du « on repousse les tables, il est 23h10 », qui est pour le coup une sorte de marquage temporel qui revient jusqu'à la toute fin du livre, comme si tout n'avait eu lieu qu'en une seule minute, en quelque sorte. Une sorte d'instantanéité de cette déflagration, pardon. Elle est écrite directement sous l'impulsion, là encore, d'une musique qui s'apparenterait presque plus parfois à du bruit qu'à une harmonisation. Mmh. Donc il y a eu cette trame, et après, dans le cours de la rédaction, il y a eu tous ces à côté qui sont venus trouer la structure du livre. Et notamment, pour moi, il y a des instants ou des moments qui font véritablement rupture, comme un passage qui s'appelle « Intermède lucratif à but non littéraire ». Il y a comme ça vraiment des sortes de blocs qui cassent le flux, en quelque sorte, et qui produisent un effet là, qui est très proche de, tout d'un coup, comme si l'époque rentrait brutalement à l'intérieur du texte. C'est quelque chose d'une sorte d'effraction du réel à l'intérieur du texte, qui tente, lui, de résister à ce réel qui fait effraction. Mmh.
Donc c'est un long texte fait de...
Plein de morceaux.
Plein de morceaux. Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de la pratique du montage? Vous êtes créateur sonore aussi, j'imagine que ça a influencé et ça influence votre manière d'écrire et de proposer un ouvrage comme celui-ci.
Alors, je dirais que c'est pas ma pratique de créateur sonore qui influence mon écriture, c'est presque l'inverse.
D'accord.
Moi, j'ai commencé à faire de la création sonore au départ pour mettre en son mon premier livre, Une fable humaine, que vous mentionnez tout à l'heure, et qui est sans doute encore plus construit avec cette notion de montage, puisque Une fable humaine, c'est un texte qui était une sorte de réactivation du mythe de Prométhée et Épiméthée, en essayant de balancer un peu brutalement ces deux figures mythologiques dans le contemporain, et qui est véritablement construit comme un gigantesque puzzle de montage, d'extraits de discours de l'époque. Et c'est en travaillant, en essayant en fait, en n'ayant à ce moment-là aucune pratique musicale, de faire quelque chose d'un point de vue sonore de ce texte, que j'ai découvert le montage son, et que du coup, il y a sans arrêt maintenant, à chaque livre que je publie, une sorte d'interdépendance entre l'écriture et son aspect de montage, et le montage sonore. Et maintenant que le livre est enfin sorti, Bruguerie, maintenant quand je le relis presque plus dans sa dimension de partition, en essayant de comprendre de quelle manière est-ce que je vais pouvoir en faire une adaptation sonore. Donc voilà, c'est là encore une sorte de boucle où l'un et l'autre. Et effectivement, lorsque j'ai écrit Bruguerie, pour le coup, j'avais déjà une pratique musicale plus importante. Et cette notion de montage qui est une façon de faire se caramboler des signifiants ou des images qui vont du coup faire surgir un effet de révélation, elle est effectivement très très présente dans mon écriture.
Eh bien, on va écouter un extrait de Bruit Gris, ce livre de Gilles Amalvi, édité aux éditions du Bunker. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet extrait?
Du coup, une fois que le livre a été publié, au terme donc de ce travail avec les éditions du Bunker, j'ai eu tout de suite très envie de ce que j'avais fait, par exemple, pour mon précédent livre, I Boom, d'en faire une sorte de restitution sonore, qui serait pour moi un concert à part entière, que j'imagine comme une sorte d'opéra brutiste joué en live, avec tout un tas de samples et de sons qui viendraient interagir avec ma voix. Et donc, Il y a dans les quelques extraits sonores, donc j'ai commencé à travailler sur cette lecture, qui serait une vraie lecture de, je ne sais pas, 40 minutes, quelque chose comme ça. Pour le moment, j'en ai composé quelques petits extraits, et où on entend, là encore, la friction entre des éléments très brutistes, à la fois pour produire un effet de tension avec la voix, qui est presque de pouvoir parfois ensevelir le sens de ce que charrie la voix, et des éléments très mélodiques qui surgissent comme des sortes de refrains ou des boucles obsédantes et qui, en quelque sorte, matérialisent l'espèce de tension dans mon écriture entre un reste ou quelque chose d'un lyrisme et d'un jeu qui continue à agir au sein du texte. Et cette masse critique de matière brutiste qui ne cesse de l'ensevelir.
Ça y est, le flux des voitures de tous les périphériques, de toutes les villes, de tous les univers simultanés qui encombrent la conscience vient se loger directement dans nos oreilles. Incroyable. On pense avec du bruit. Incroyable. Le bruit produit de l'espace. Incroyable, incroyable. On se meut dans cet espace. On flotte. On s'étend indéfiniment, mais on reste dense, groupé, syncrétique. Sommes des croyances liées à l'avènement d'un dieu microscopique. On change la couleur de l'interface corps-esprit. Corps-esprit. Notre base de composition est, notre théorème politique est, et notre vision psychologique sont désormais situées à l'autre bout du spectre auditif. 0 dB, c'est encore un signal. Écoute bien. Tu entends? Tu entends? Horizon sensoriel en cours de maintenance. Tu entends, entends. On prend des notes. On recouvre l'espace physique de notes. On efface tous les historiques de navigation. On accroche des petites photos de nous, enfants, sur le frigo, pour s'y retrouver dans le déroulement des faits. On note les repères au feutre bleu, rouge, violet, violet, bleu, rouge, violet. Ici passe un flux invisible. Ici l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Vert, brun, vert, terre, carmin, 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 carmin. Battement de cœur long de plusieurs minutes. Ici, ici, ici. Silence absolu d'une photographie en noir et blanc. Ici, ici. Ça y est. Plus de surface rigide. Ici. De cloisons, de paupières, d'instants de vérité, plus de super pouvoirs ni de microfilms cachés. Juste une boussole en plastique et notre flûte cassée. Et notre flûte cassée. Mais c'est bon. On est encore.
Est très étonnant par rapport à ce que l'on peut se faire comme idée de la poésie. Ce texte a trouvé sa place dans cette maison d'édition du Bunker. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cette maison d'édition qui est une jeune maison d'édition ?
Tout à fait. Je peux dire deux mots à la fois effectivement de cette maison d'édition et de comment est-ce que je l'ai rencontrée, puisque sans doute particulièrement aujourd'hui, dans l'état de précarité dans lequel se trouvent à la fois les petites maisons d'édition et tous les différents réseaux, que ce soit les librairies indépendantes par exemple. Le combat que mène, puisqu'on peut vraiment parler de combat pour le coup, Hélène Léco, l'éditrice d'édition du Bunker, pour que ces livres soient lus, soient vus, soient entendus. Moi, c'est quelque chose avec lequel je me sens tout à fait pas seulement en accord, mais c'est exactement comme ça aussi que j'envisage la littérature et la poésie, non pas comme une sorte de petite pratique confidentielle dédiée à quelques initiés, mais au contraire, comme j'ai toujours envie, moi, de prendre un mégaphone ou un porte-voix pour gueuler mes textes, enfin les gueuler métaphoriquement, mais pour qu'ils soient entendus. Mm-hmm. Et je pense que c'est de ce point de vue-là, on s'est tout à fait bien rencontré avec les éditions du Bunker, puisque c'est aussi tout à fait sa démarche.
Très bien. Cet ouvrage, donc, a désormais... Il est né.
Il est né, et il est d'ailleurs présent dans les librairies. Là, on est sur Radio Univers, donc par exemple, la très bonne librairie, le Lieu Jaune à Tintignac, qui justement a pour le coup, est une librairie indépendante avec une vraie démarche de découverte, notamment de la poésie, ce qui n'est pas toujours le cas. La librairie de Combourg également, mais évidemment à Rennes, par exemple, la librairie Comment Dire. Donc on peut le trouver en librairie.
Et puis par ailleurs, il y a toute cette dimension, cette version aussi lue de ce texte que l'on peut retrouver, notamment probablement durant les lectures qui s'accompagnent, organisées par les librairies notamment, mais pas que, et sur Internet.
Oui, alors il y a eu effectivement un premier extrait lors du lancement du livre à la librairie Centrale à Paris, où j'ai fait une lecture de quelques petits extraits accompagné de mes amis les radios. Donc j'avais pris plein de petites radios et je diffusais les sons sur des petites radios, puisque la radio est malgré tout un objet poétique au sein de Bruguerie assez important, qui grésille quasiment jusqu'à la fin du texte.
Qui revient régulièrement.
Mais l'objectif à terme, c'est de produire donc vraiment une lecture que j'aimerais pouvoir faire entendre, peut-être aussi dans des lieux de musique, sous la forme vraiment du concert où à la fois je lise et je manipule des machines électroniques, des instruments, voilà, d'avoir une espèce de bazar comme ça dans lequel je navigue. Donc ça, j'ai pas encore terminé la composition de cette lecture, mais une fois que ce sera fait, je vais pouvoir m'occuper d'essayer de la faire entendre. Et en attendant, effectivement, il y a plusieurs extraits qui sont disponibles sur Instagram, par ailleurs, puisque c'est aussi des moyens de faire entendre par d'autres biais. Sur YouTube également, il y a quelques extraits de lecture qui sont présents. Et puis également, du coup, maintenant sur Radio Univers.
Très bien. On va écouter un autre extrait de cet ouvrage, Bruit Gris, de Gilles Amalvi, aux éditions du Bunker, tout de suite.
Très loin par-delà les antennes. L'entraînement est terminé.
groupes d'acheteurs regagnant leur voiture ont des gestes d'enfant. On enregistre tout, pensée, formation, des rêves, degré de satisfaction. On enregistre la chanson douce des morts dans l'inconscient des vivants. On est inquiet pour ceux qui vivent. Maintenant, on crie modérément dans le cauchemar du siècle. On passe une main sur le front brûlant des engins de locomotion. Refrain. Est-ce ainsi que les âmes vivent ? On ne change ni le copyright, ni la forme des choses. On met la radio plus fort.
Merci à vous, Gilles Amalvi.
Avec plaisir, merci
d'être
à vous.
Venu nous présenter cet ouvrage qui est sorti donc en décembre 2025 aux éditions du Bunker. Cet ouvrage intitulé « Bruit gris » que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci aussi de nous avoir fait entendre ces extraits durant cette émission de Logosphère. C'était Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9, une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de la radio, le www.radio-univers.com. Salut.